France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour. Un nouveau gouvernement ce matin au Conseil des ministres. 11 nouveaux entrants, plus de la moitié, sont issus de cette fameuse société civile. Dans l'actualité internationale, en Irak, les djihadistes de l'État islamique ont fait sauter la grande mosquée Al-Nouri. C'est dans cet édifice que le chef de file de Daesh avait proclamé l'instauration de son califat. Pour le Premier ministre irakien, faire exploser cette mosquée revient à reconnaître officiellement la défaite. En Allemagne, l'hommage du Bundestag à Helmut Kohl, celui qui avait été l'architecte de la réunification allemande, s'est éteint vendredi dernier à 87 ans. Invité de la séquence interview, Marc Semo, grand reporter au Monde, nous évoquerons avec lui les situations des journalistes en Turquie. Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous, Olivia Gesbert.
Oui, retour de l'Europe par la défense, enfin peut-être. On va en parler avec notre invitée Nicole Gnessoto, qui est présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale. Elle a aussi publié avec Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'OMC, un ouvrage en février, Où va le monde, chez Odile Jacob. Vous verrez que tout ça n'est pas déconnectable. On va falloir relier la mondialisation, le monde, à la question européenne.
À tout de suite. À l'heure. Le deuxième gouvernement de l'ère Macron a tenu ce matin son premier conseil des ministres. 11 nouveaux entrants. Le gouvernement est désormais composé de 15 femmes et 15 hommes. Plus de la moitié sont issus de cette fameuse société civile. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Antoine.
Alors dans ce gouvernement Philippe II, on a enlevé des poids lourds du Modem et on a mis à la place des technocrates un gouvernement qui porte clairement la marque d'Emmanuel Macron.
Oui, avec déjà deux des principaux lieutenants du président de la République nommés secrétaire d'État. D'abord Benjamin Griveaux, il était le porte-parole de campagne d'Emmanuel Macron et c'était le seul politique du premier cercle qui n'avait pas encore intégré un ministère. Il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, donnant l'impression d'être placé là pour être l'œil et les oreilles du président à Bercy. Et c'est un peu la même chose pour Julien de Normandie. Lui aussi est un très proche au cabinet de Macron quand celui-ci se trouvait à Bercy. Et aujourd'hui, en tant que secrétaire d'État, il aura la charge de superviser l'action du ministre de la Cohésion des Territoires, l'ex-sénateur du Parti Radical de Gauche, Jacques Mézard. Macron a également donné des gages à François Bayrou pour prix de son départ, en nommant d'abord l'une des plus fidèles du président du Modem, la sénatrice du Loir-et-Cher Jacqueline Gourault, ministre déléguée auprès de Gérard Collomb, place Beauvau. Et puis, il a promu une autre figure historique de Modem, secrétaire d'État aux armées, Geneviève Darrieussecq. Elle était jusqu'ici maire de Mont-de-Marsan, nomination assez surprenante, puisque Geneviève Darrieussecq n'a pas vraiment de compétences pour les affaires militaires. En tant qu'ex-médecin, elle est plutôt spécialiste des questions de santé. Il faut donc sans doute voir là une volonté du chef de l'État de rester pleinement chef des armées. D'autant qu'à la Défense, comme ministre de plein exercice, Macron a nommé Florence Parly, ex-secrétaire d'État au budget de Lionel Jospin, reconvertie depuis à la direction de la SNCF. Le chef de l'État recrute également deux nouveaux ministres de droite, Sébastien Lecornu, un proche de Bruno Le Maire, et Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur Les Républicains de Lyon. Et puis pour remplacer Bayrou à la justice, il a choisi une juriste, prof de droit public à l'université, avec un profil plus techno que politique, Nicole Belloubet. Voilà, il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Ce gouvernement ressemble à un tableau impressionniste d'un apprenti peintre en politique, dont on se demande encore si le coup de pinceau tient du hasard ou relève du génie.
Merci à vous Stéphane Robert et vous parliez à l'instant de François Bayrou. Eh bien on va en reparler. Ce matin, Christophe Castaner était l'invité de Patrick Cohen sur France Inter. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur ses premiers couacs gouvernementaux qui ont conduit à ce remaniement. Il a reconnu une fragilité.
C'est une fragilité qui a été traitée. Donc on peut l'appeler crise si on veut partir haut dans le vocabulaire, fragilité à un moment donné. Vous savez, déjà le principe même posé par le Premier ministre de dire... Un ministre mis en examen doit quitter le gouvernement et par nature injuste, parce qu'on sait très bien que la mise en examen ne vaut pas condamnation. Et pourtant, on sait que dans notre société médiatique, de tension, d'attente forte de nos concitoyens, vous êtes en fragilité quand vous êtes mis en examen. Et aujourd'hui, on constate un ministre, garde des Sceaux, par exemple, est en fragilité quand il fait lui-même l'objet d'une enquête. Donc à partir de là, je pense qu'ils ont pris les uns et les autres la bonne décision, celle de se mettre en retrait, non pas de partir de la politique, mais de se mettre en retrait pour préparer leur défense et ils ont leur place dans la vie politique française parce que je suis convaincu que les uns et les autres ne seront pas condamnés pour des faits, pour l'instant, sur lesquels ils ne sont pas mis en examen et dans la plupart des cas, même pas mis en cause.
Et puis toujours en politique, sachez qu'Olivier Faure a été réélu ce matin président du groupe PS de la Nouvelle Assemblée nationale. Il l'a emporté très largement sur l'autre candidate, l'ancienne ministre de l'Environnement Delphine Batteau, 28 voix contre 3. Midi 35 sur France Culture, la symbolique est importante. En Irak, les djihadistes de l'État islamique ont fait sauter la grande mosquée Al-Nouri et son célèbre minaret penché. C'est dans cet édifice que le chef de file de Daesh avait proclamé l'instauration de son califat. Et pour le premier ministre irakien, faire exploser cette mosquée revient à reconnaître officiellement la défaite. Bonjour Eric Biagala.
Bonjour Antoine.
L'État islamique affirme que c'est l'armée américaine qui a détruit la mosquée, une version démentie par Washington.
Oui, c'est pas probable. La mosquée Al-Nouri de Mossoul, c'était le cœur symbolique du califat d'Abou Bakr al-Baghdadi. C'est depuis, vous l'avez dit, c'est depuis la chair de cette mosquée que le chef de l'État islamique en Syrie et au Levant avait proclamé il y a 3 ans, presque jour pour jour, le renouveau d'un califat et son élection comme calife à la tête de celui-ci. Une montée en chair et une péroraison d'une quinzaine de minutes, dûment filmée et qui constitue en fait pratiquement les seules images que l'on connaisse d'Abou Bakr al-Baghdadi. La mosquée originelle, construite au XIIe siècle par l'émir de Mossoul, célèbre pour avoir rallié les musulmans contre les croisés, de cette mosquée originelle ne subsistait que ce minaret, un minaret penché, aussi renommé dans le monde musulman que la tour de Pise en Europe, est surnommé Al-Hadba, le bossu. Un minaret que, semble-t-il, les djihadistes de l'État islamique avaient déjà voulu détruire à l'été 2014, considérant que la ferveur dont il faisait l'objet s'apparentait à de l'adoration, de l'idolâtrie. À cette époque-là, les djihadistes avaient dynamité d'autres hauts lieux de ferveur religieuse dans Mossoul, comme le mausolée de Jonas. Mais le minaret bossu, lui, avait été défendu par les habitants du quartier qui avaient constitué une chaîne humaine pour empêcher les djihadistes d'y placer leurs charges explosives. Aujourd'hui, évidemment, il n'est plus question de chaînes humaines dans Mossoul. Les forces irakiennes ont largement pénétré le dernier réduit de l'État islamique, la Médina, la vieille ville de Mossoul, au cœur de laquelle se trouve la mosquée Al-Nouri. L'État islamique a accusé les avions occidentaux qui appuient l'armée irakienne d'être à l'origine de la destruction de la mosquée de son fameux minaret. Il semble beaucoup plus probable que les djihadistes aient eux-mêmes dynamité l'ensemble, ce qui revient, effectivement, a commenté le premier ministre irakien, ce qui revient à reconnaître officiellement la défaite de l'État islamique.
Merci à vous Eric Biagala. C'est aujourd'hui que l'on devrait connaître le jugement dans le procès sur l'assassinat de Boris Nemtsov. L'opposant russe avait été tué en 2015. 5 hommes originaires des républiques russes de Tchétchénie et d'Ingouchie étaient sur le banc des accusés. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Antoine.
Les représentants de la défense ont regretté que les raisons de cet assassinat n'aient toujours pas été éclaircies.
Oui, comme pour le meurtre de la journaliste Anna Politkovskaya 9 ans auparavant, l'assassinat de Boris Nemtsov, autre figure de l'opposition à Vladimir Poutine, restera sans doute non résolu. Là encore, des hommes de main ont été arrêtés. 5 hommes, tchétchènes et ingouches, accusés d'avoir appuyé sur la gâchette le 27 février 2015 au soir. L'opposant numéro 1 au maître du Kremlin avait été abattu de 4 balles dans le dos sur un pont près de la place Rouge, à 2 pas du Kremlin et des bureaux de Vladimir Poutine, alors qu'il se promenait avec sa compagne. Il venait une fois de plus de dénoncer l'implication militaire russe en Ukraine auprès des séparatistes de l'Est et préparait un rapport sur Poutine et la guerre démontrant comment et pourquoi cette campagne militaire avait été planifiée. L'enquête a donc permis de remonter jusqu'au tireur présumé, dont un membre d'une unité d'élite du ministère de l'Intérieur en Tchétchénie. Ils auraient été payés 15 millions de roubles, environ 250 000 euros. Le commanditaire présumé Ruslan Mouroudinov est lui en fuite. Lui aussi servait dans les rangs des forces spéciales loyales au président tchétchène. Et c'est bien ce dernier, pour les proches de la victime, qui est le réel instigateur, le président tchétchène tout-puissant, allié de Vladimir Poutine, Ramzan Kadyrov. Kadyrov qui multiplie les campagnes d'intimidation contre l'opposition libérale à Poutine. La piste mènerait jusqu'à lui, selon de nombreux observateurs, mais elle n'a pas été explorée. La justice russe a même refusé de le convoquer comme simple témoin. Le verdict, qui ne fait guère de doute, laissera un goût amer, en tout cas aux proches de Boris Nemtsov, qui note aussi une relative apathie de la société russe, alors que ces dernières années, le taux de mortalité ou d'exil est élevé parmi les opposants à Vladimir Poutine.
Merci Marie-Pierre Véraud et bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Monde. On vient de l'entendre, hein, dans ce procès, il y a beaucoup de questions et peu de réponses.
Oui, comme d'habitude, ce sont les longues pistes. La piste remonte à Ramzan Kadyrov, donc à Poutine. Alors ensuite, peut-être que Ramzan Kadyrov a cru vouloir faire plaisir à Poutine, mais bon, les faits sont là, et c'est assez préoccupant, parce qu'on voit maintenant, donc après la mort de Boris Nemtsov, qui était l'opposant le plus dangereux, que Alexei Navalny, aujourd'hui qui est l'homme qui mène la bataille contre la corruption, qui a lancé les manifestations qu'il y a eu ces derniers temps, lui-même menacé, il a été attaqué à l'acide, il est sous un harcèlement judiciaire, et on voit que Poutine veut absolument tout faire pour se débarrasser des opposants les plus dangereux, et garantir sa totale victoire aux élections de mars 2018.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe en Turquie en ce moment ?
Oui, évidemment, parce que on parle beaucoup en Turquie de la poutinisation du régime d'Erdogan.
Et ça va beaucoup plus loin. C'est un terme abusif ou pas ?
ce n'est pas un terme abusif, mais Recep Tayyip Erdogan, malgré tous ses efforts, n'y est pas encore arrivé. Heureusement, il n'y a pas encore eu d'élimination de grands opposants politiques, physiques. Et quand Erdogan a fait ce référendum pour la nouvelle constitution, qui lui donne de fait les pleins pouvoirs, ça a été très laborieux. Le oui a gagné avec un petit 51 et quelques %, avec des fraudes de dernière minute assez grossières. Et dans les principales grandes villes du pays, à commencer par Istanbul et Ankara, le non a triomphé. Donc on voit que Erdogan a encore beaucoup à apprendre des méthodes du maître du Kremlin.
Bien justement, on va en reparler. Merci Marc Semo dans la séquence interview de ce journal où on vous retrouvera avec Éric Biégala. Il avait été un des piliers de la construction européenne. On retiendra notamment un geste, sa main, dans celle de François Mitterrand à Verdun, symbole de la réconciliation franco-allemande. Il avait également été l'architecte de la réunification allemande. Et pourtant, à la demande de la famille, Helmut Kohl n'aura pas d'obsèques nationales, mais une cérémonie européenne à Strasbourg. Le chancelier s'est éteint vendredi à l'âge de 87 ans. En conflit avec une bonne partie de la classe politique allemande, le seul hommage national était ce matin une courte cérémonie en son honneur au Bundestag, avec un discours prononcé par le président de la Chambre. À Berlin, les précisions de Nathalie Versieux.
Le président du Bundestag, Norbert Lammert, est l'un des rares politiciens de la CDU avec qui Helmut Kohl n'était pas fâché. Réputé pour la ténacité de sa rancœur, l'ancien chancelier avait rompu avec la quasi-totalité de la CDU à la suite de l'affaire des caisses noires, qui l'avait obligé à céder la direction de son parti à Angela Merkel. La seconde, Madame Kohl, sa veuve, entend respecter à la lettre le refus du grand homme de se réconcilier avec son camp. Selon la presse allemande, elle aurait opté pour une cérémonie européenne plutôt qu'un hommage national pour écarter de la liste des orateurs le président de la République, mais aussi Angela Merkel et d'autres pointures du parti. Statut du commandeur déchu et en rupture avec son clan, Helmut Kohl est devenu un héritage difficile à gérer pour l'Allemagne.
Les Qatariens vont passer les fêtes de l'Aïd sous embargo. En effet, le 5 juin dernier, trois pays du Golfe ont décidé de rompre tout lien avec l'Émirat. Il s'agit de Bahreïn, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Plus de liens économiques, politiques, plus de liaisons maritimes, aériennes et terrestres. Le Qatar est accusé de soutenir des organisations terroristes. Or, le pays importe 90% de ses besoins en nourriture. Mais à quelques jours de la fin du Ramadan et des fêtes de l'Aïd, les magasins sont pleins, les étals bien achalandés. C'est ce que vous avez constaté sur place, Angélique Ferrat.
Plus de la moitié des yaourts et du lait consommés au Qatar provenaient du voisin saoudien. Les tomates venaient de Jordanie ainsi que les melons. Ils ont été remplacés par des produits turcs et iraniens. Alors l'embargo ne se fait pas vraiment sentir. Le supermarché Lulu à Doha affiche des étagères bien remplies avec quelques nouveautés dans les rayons et dans l'affichage. Course en direct avec une Française installée au Qatar.
Ça c'est turc aussi, ça c'est une marque qu'on ne recevait pas avant.
Mais il y a encore des produits saoudiens, ça c'est saoudien, non, Al Marai?
Oui, saoudien.
On finit les stocks là. Là, on vient trouver la mortadelle qatari. Ah oui, on voit le drapeau du Qatar, petite estampille. Et là, ils sont en début de rayonnage, mis en évidence.
Les fruits et légumes, on va aller voir ce qu'il y a, mais on continue de trouver l'essentiel. Il y a peut-être un petit peu moins de choix.
Ah bah les tomates, Inde, des tomates d'Inde.
Elles sont un peu chères, hein.
Ah oui, 8,75. Normalement c'était 4.
Iran, on a les courges,
ouais.
Les radis
viennent d'Iran.
C'était vendu comme ça en bottes et il n'y avait pas ce genre d'affichage.
Alors aujourd'hui maintenant on sait d'où viennent les produits. Hein.
Exactement, on en a beaucoup plus conscience en fait.
Le gouvernement de Doha prend à sa charge le coût de transport de ces nouvelles importations. Le pays continue à exporter son gaz, soit par mer, soit par son gazoduc qui le relie aux Émirats Arabes Unis. Le Qatar n'est donc pas asphyxié financièrement.
Les suites de l'enquête sur l'attentat manqué mardi soir à la gare de Bruxelles centrale. 4 personnes ont été arrêtées lors de perquisitions menées hier soir. Ces perquisitions ont eu lieu dans plusieurs quartiers de la capitale, dont Molenbeek. Molenbeek où vivait l'auteur de la tentative d'attentat. Un magistrat doit se prononcer dans la journée sur la prolongation de ses détentions. Midi passé de 45 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview. L'invité est aujourd'hui le grand reporter au monde, Marc Semeau. Il est interviewé par vous, Eric Biegala.
Oui, bonjour Marc Semeau.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, ce jeudi, une nouvelle audience en Turquie dans le procès d'Aslı Erdoğan, la romancière, qui est accusée d'atteinte à l'unité de l'État. Alors, ce sont les peines possibles, c'est la réclusion criminelle à perpétuité, ou de propagande séparatiste. C'est un cas parmi en fait des dizaines et des dizaines de romanciers, de journalistes, etc., qui sont traînés devant les tribunaux et qui souvent terminent en prison. Accuser une romancière d'atteinte à l'unité de l'État, c'est délirant.
Oui, c'est alors ensuite, c'est de l'ordre du délire. Ensuite, elle est accusée pour les chroniques qu'elle avait fait dans le quotidien Procure de Sgurgundem, qui étaient des chroniques d'actualité, notamment qui évoquaient avec beaucoup d'émotion la répression et les violences à l'été, à l'automne 2015, après la reprise de la guerre entre la guérilla kurde et l'État, et notamment la bataille pour les centres urbains, le PKK, qui mène la rébellion, avait lancé des insurrections urbaines. Le pouvoir avait décidé de reprendre le contrôle de ces villes, et ça avait été extrêmement violent, avec beaucoup de dégâts collatéraux. Il y avait 1000 à 2000 morts, notamment dans la petite ville de Çizre dont elle parle. Voilà, et c'est pour ça qu'elle est jugée. Ensuite, la machine de la répression est devenue folle. Bon, au niveau des journalistes, on a 167 journalistes emprisonné. Lundi, c'est ouvert d'ailleurs à Istanbul.
C'est le record du monde.
C'est le record du monde. Alors, en même temps, ça veut dire qu'il y a des journalistes. C'est-à-dire, c'est ça un peu la situation paradoxale. Vous prenez par exemple un journal comme Cumhuriyet, qui est le grand journal de l'opposition, qui était le journal fondé par Mustafa Kemal. Donc, son directeur est réfugié à Berlin. Mais sont co-inculpés, ils sont accusés d'avoir passé des vidéos montrant que l'État turc aidait des djihadistes, etc. Son adjoint continue à gérer le journal. Il y a 11 des grands éditorialistes et des responsables du quotidien qui sont en prison, à Sili Veri, dans la prison de haute sécurité. Mais le journal continue de sortir. Le journal n'a pas changé de ligne. Il y a simplement, en blanc, la place des éditos, de tous ces éditorialistes et de ces grandes signatures, à commencer par Kadri Gürsel, qui sont en prison. Et les accusations sont totalement absurdes. Kadri Gürsel, la seule véritable charge, c'est qu'il a reçu des appels venant de par Baylok, qui était la messagerie cryptée utilisée par la confrérie, par la confrérie de Fethullah Gulen,
qui est accusée d'être à l'origine
du coup d'État raté de juillet. Voilà, c'est la seule charge. Ahmed Sik, qui est un des grands reporters d'investigation qui est aussi en prison, lui avait été en prison déjà en 2011 parce que dans un livre, il avait démontré l'infiltration de la confrérie de Fethullah Gulen dans l'État. Donc on est dans une histoire totalement qui est une insulte au bon sens.
Alors ça c'est pour les journalistes, mais il n'y a pas que. Il y a beaucoup de monde qui se retrouve devant les tribunaux et qui se retrouve en prison. Alors ce sont des fonctionnaires, ce sont des juges, et puis monsieur tout le monde. En fait, n'importe qui peut se retrouver actuellement en prison.
Absolument, parce que le pouvoir a eu très peur de ce coup d'État. Alors on est actuellement à peu près 45 000 personnes en prison, ou inculpés, mais la plus grande partie en prison, et 150 000 personnes qui ont été démis de leurs fonctions, notamment des fonctionnaires. Alors ensuite, si on compare à ce qui s'était passé après le coup d'État de 1980, dans une Turquie qui était moitié moins peuplée, c'est très peu. À l'époque, il y avait eu 650 000 arrestations. Donc ce qui explique aussi en partie la résilience de la société turque. Mais il y a, entre les personnes emprisonnées, les personnes qui ont été chassées de leur travail, quasiment 1 million de personnes aujourd'hui, qui sont devenues des non-citoyens. Parce que, évidemment, les gens en prison, alors une grande partie, ce sont les gens qui sont accusés d'être liés à cette confrérie islamiste, d'autres sont accusés de liens avec la guérilla kurde, deviennent des non-citoyens. On saisit leur compte bancaire, on saisit leur appartement, ils n'existent plus. Et souvent, alors notamment pour la répression contre les Gulenistes, qui était une confrérie occulte, on travaille, l'État, sur les repentis, donc les gens ont tendance évidemment à en rajouter, ou à régler leur propre compte. On travaille sur le profilage. Le type avait étudié avec une bourse donnée par cette confrérie qui s'occupait d'œuvres sociales. Il avait un compte bancaire dans Asia Bank, qui était la banque de cette confrérie, et il avait Baylok sur son téléphone. C'est évidemment un coupable. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous partez en prison et vous disparaissez comme ça. Vous devenez un espèce de mort-vivant avec votre famille marquée par l'opprobre, les voisins qui ne vous parlent plus, vous n'avez plus aucun moyen de vivre, etc. Donc c'est une situation là aussi qui est absolument terrible.
La Turquie d'Erdoğan, actuellement, c'est quoi? C'est une dictature en devenir ou pas tout à fait, pas encore, dictature molle?
C'est une dictature en devenir avec un président qui maintenant a tous les pouvoirs, quasiment, qui est isolé dans son immense palais et qui est toujours plus qui vit dans la peur panique du complot et de l'attentat. Hein, malgré tout, ce coup d'État était un coup d'État sérieux, ce n'était pas une manipulation. Il suffit de voir le visage ravagé d'Erdogan au moment du coup d'État, quand on l'a vu dans sa première intervention télévisée. Il a vu à quel point les réseaux de la confrérie de Gulen étaient puissants, y compris dans son entourage proche. Donc c'est un homme qui vit vraiment dans la peur et qui essaye de plus en plus, maintenant, d'avoir de plus en plus de pouvoir. Mais en même temps, c'est un pouvoir qui patine. C'est-à-dire, on en parlait à propos du référendum. La victoire a été extrêmement courte et vraiment trafiquée au dernier moment. Ce n'est pas Poutine qui a ses 70% garantis. Les grandes villes ont voté contre, donc c'est un très mauvais signal. La machine sécuritaire est en plein crack, hein, à cause des purges notamment. Il y a 4000 juges, un tiers des juges et des procureurs qui ont été démis de leurs fonctions. Même l'armée, Erdogan dit nous sommes prêts à protéger le Qatar et même à envoyer des hommes et des troupes au Qatar. Il n'en a même pas les moyens. Plus de la moitié, voire les deux tiers des pilotes sont en prison. La marine a été de la même manière totalement démantelée. Donc c'est un pouvoir qui joue au pouvoir fort, qui est d'autant plus méchant, si on me pardonne cette épithète morale, qu'en réalité c'est un pouvoir faible.
Merci à vous Marc Semo et Eric Biegala. C'est une nouvelle forme de commerce qui vient de débarquer en France avec l'ouverture de l'enseigne Costco à Villebon-sur-Yvette dans l'Essonne. Costco, géo-américain de la distribution, pratique ce qu'il appelle les clubs entrepôts, un concept à mi-chemin entre les hyper et les grossistes où le client peut se ravitailler en produits vendus par lot. Moins de choix dans les assortiments de produits, mais des prix plus bas. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Bonjour Antoine Arrête.
Alors cette stratégie qui devrait contrarier les grandes surfaces commerciales, elle devrait contrarier les grandes surfaces commerciales déjà installées.
Les patrons de grandes surfaces s'en défendent. Pourtant, quand bien même ils ont ferraillé pendant 5 ans en lançant des procédures contre l'arrivée de Costco. Non, ils ne redoutent pas, disent-ils, les effets de l'arrivée d'un nouveau concurrent. Il n'est pas sur le même terrain, disent-ils, et son implantation sur un seul site ne va pas chambouler la distribution. Du moins, pas pour l'instant, puisque Costco a l'intention d'ouvrir une demi-douzaine de magasins, rien qu'en Île-de-France et au moins autant dans l'Hexagone. Alors, il est vrai que le distributeur américain qui n'a cessé de grossir est devenu deuxième mondial de la distribution, qu'il a les moyens de s'imposer sur le pari de son concept marketing. Le client cotise pour une carte d'adhésion annuelle. Elle lui permet d'acheter en quantité des articles rassemblés en lots sur des palettes, le faire sur la base d'un panier de référence beaucoup plus réduit certes, mais en jouant sur un renouvellement plus fréquent des assortiments. Et c'est en jouant sur ce concept que l'Américain assure pouvoir permettre à ses clients de réaliser des gains de l'ordre de 5 à 50%. En moyenne, on serait plutôt sur des tarifs inférieurs de 15 à 20%. Moins cher donc, sans altérer pour autant la qualité, affirme le distributeur. Son cœur de cible, on l'a compris, eh bien ce sont les familles de 2 enfants et davantage. En plus, on le sait, des professionnels. Et jusqu'à présent, ça lui a plutôt bien réussi avec l'ouverture de 725 magasins entrepôts dans 11 pays.
Merci à vous Jean-Marc Chardon. Un mot du temps, sachez que hier a été la journée de juin la plus chaude enregistrée en France depuis 1945, c'est ce qu'indiquait Météo France. La moyenne des températures à l'échelle nationale a atteint 26,4 degrés hier, donc premier jour de l'été. C'est un nouveau record, c'est la journée donc de juin la plus chaude depuis l'après-guerre, c'est ce qu'ont déclaré les prévisionnistes de Météo France. Dernier jour donc de canicule, les températures vont rester élevées sur une bonne partie du pays. Il fera 36 degrés à Toulouse, 35 à Paris, 29 à Marseille. Ce sera beaucoup plus doux en Normandie avec 19 degrés à Dieppe. Les orages vont faire leur apparition cet après-midi sur la moitié est. C'est la fin de cette édition préparée avec Yacine Bouzard. Prochain journal à 18h. Il vous sera présenté par Anne Fauquemberg.